RMC. C'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non?
C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord.
Le Super Football Show.
J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Nicolas Villas.
Toujours avec Ali Benarbia et François Manardo. Et vous êtes toujours aussi nombreux sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio également. On était il y a quelques instants avec Jules Koundé, le Bordelais, avec Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Dijon, avec Christophe Pellissier, l'entraîneur de Amiens.
Je vais remercier.
J'en profite, au-delà de remercier nos producteurs, au-delà du remerciement à nos producteurs, un grand merci à nos correspondants, à Paul Lafitte, notamment Jean Baumel et Wilfried Templier, voilà, qui nous aident à caler tous ces invités et à vous gâter dans l'after. Je vous redonne quand même les résultats de cette 32e journée de Ligue 1. Monaco a battu Nantes 2-1. Supporters nantais, supporters monégasques, on vous attend au 32-16 pour revenir sur ce match. Amiens a battu Caen 3-0. Victoire de Bordeaux 2-1 face à Lille. Victoire de Dijon 1-0 à Toulouse. Un partout entre Angers et Strasbourg. Et Guingamp a battu 3-4-0. Corentin nous attend depuis tout à l'heure. Fidèle de l'after. Fidèle supporter de Caen également. Salut Corentin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir François, bonsoir Ali, bonsoir à tous.
Salut Corentin.
Bon Corentin, ça commence à piquer un peu là pour Caen là quand même. Hein. 4 défaites de
suite.
C'est
compliqué.
Ouais.
C'est compliqué, on a pu gagner depuis Strasbourg. La dynamique n'est pas bonne, ça joue pas bien. L'infirmerie est pleine. Les deux dernières copies, là, rendues par, face à Montpellier et celle de ce soir, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, copie blanche. J'ai quand même quelques bémols. Je l'ai toujours dit, même en début de saison, j'avais fait un avis tranché vers le mois d'octobre. Après, j'avais dit c'est la dernière saison avant un fin de cycle. C'est une vraie fin de cycle, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs. C'est un fait. Mais là, je m'inquiète vraiment. C'est très inquiétant. Vraiment, le niveau de jeu, là, ce soir, il n'y a pas photo. Amiens, ça mérite de gagner 1000 fois. La semaine dernière, Montpellier, ça mérite de gagner 1000 fois. Il n'y a pas photo. Le seul truc à la limite qui me rassure, c'est que derrière, ça gagne pas non plus, quoi. C'est que derrière, ça cale. Le système qui change plusieurs fois au fil des matchs, on change de système, on passe à 4, on passe à 3, on passe à 5, on passe à 3 millions, on passe
c'est
à 2 millions.
C'est peut-être la cause de l'infirmerie.
Bah, au final, t'as 6 points d'avance sur la place de barragiste, hein. C'est bien.
Est-ce que l'infirmerie est pour quelque chose dans le changement d'animation?
Oui, parce qu'en fait, quand ce sont des milieux qui sont absents, les défenseurs sont là, mais quand c'est les défenseurs qui sont absents, c'est les milieux qui reviennent, donc t'es obligé de bricoler à chaque fois. L'infirmerie, à Caen, on n'avait pas trop l'habitude d'avoir des montagnes de blessés, mais alors cette année, surtout depuis le début 2018, c'est incroyable. Donc, je me refuse l'idée de la demi-finale de Coupe de France dans 10 jours qui perturbe les têtes. Alors ça, j'y crois pas une seconde, et je ne pense pas que ça devrait arriver si c'est le cas. Pour moi, là, pour l'instant, la demi-finale de Coupe de France, elle est pas encore dans les têtes. Il y a le match de Toulouse qui est très important samedi. Il y avait quand même l'objectif avec Montpellier, Amiens, Toulouse. L'objectif, c'était entre 5 et 7 points. On est à 0 pour l'instant. Ça sera 3 maximum si ça bat Toulouse. Je suis très inquiet. Il y a des individualités qui baissent. Julien Ferré, je pense que c'est la dernière année au niveau. Je pense que là, on est vraiment sur la fin. Bessard, on est sur la fin. Rodelin, il y a eu la période, là, novembre, décembre, où il y a eu quelques beaux buts. Mais c'est inconstant, trop inconstant. Santini, je pense, même s'il y a les 15 buts de l'année dernière, ça a été un poil surestimé, je pense. Aïd Benacer, qui était notre plaque tournante, mais qui est prêté en ce moment, est absent. Il y a des mecs qui sous-performent. Il y a des gars qui sont pas Da Silva, Damien Da Silva qui est bon depuis 4 ans,
hein,
il est
très bon. Aussi.
Quand t'es dans Ali, quand t'es dans un club entre 15 et 20, bon, t'as un mec en fin de contrat, tu te fais très peu d'illusions. Ça, bon, fin de contrat, tant pis. Hein, et écoute, il y en aura d'autres qui viendront. Ça sera une perte évidemment, mais il y en a d'autres qui viendront. Donc,
ouais, il a des envies d'ailleurs aussi.
Non, mais c'est pour ça.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est légitime. J'ai pas de problème avec ça. Moi, alors, vraiment. Alors, tu sais, Nicolas, moi, je sais, je te dis la vérité, on est quand? Alors, franchement, on est 15-16e de Ligue 1, on peut pas viser plus haut. J'ai aucun problème avec ce qu'un club vise un autre projet, un joueur, pardon, vise un autre projet, un projet même supérieur, que ce soit à l'étranger ou même en France, j'ai pas de problème. Tant que sur le terrain, il fait ce qu'il faut, et tant qu'il est impliqué jusqu'au bout pour le Stade Malherbe Caen, j'ai pas de problème. Est-ce que Damien Da Silva, j'ai aucun problème, il est là depuis 2000,
depuis 2014. À t'entendre, en fait, c'est quoi, en fait, que tu sentirais un vent de changement avec le
ouais,
coach,
ouais,
le
ouais,
dirigeant, c'est un moment qu'il est aussi,
ouais,
les dirigeants, est-ce que c'est
2012.
Ça?
Alors, il y a plusieurs choses. Sur le plan vraiment terrain, garant est là depuis 2012. Il y a des joueurs qui sont là depuis la remontée en Ligue 1 en 2014. Les Ferré, les Da Silva. Ça commence à faire beaucoup. Vercoutre, Vercoutre qui est sur la fin aussi. Je pense que même en ce moment, Bristol Bay supérieur à Vercoutre, ça peut poser problème. Ça, c'est sur le plan sportif. Je pense que Garand a fait le tour de la question. Il est en fin de contrat, en plus, il me semble, là, au mois de
juin. Il a fait le taf, Corentin, Garand.
Il est pas redescendu, hein.
Bien sûr. Et moi, je fais pas partie de ceux qui l'ont sifflé. Je sais que moi, j'ai assisté à Caen-Rennes il y a environ un mois et s'est fait siffler au stade. Moi, je suis pas pour. Pour moi, Garand, le passage est positif. Avec, s'il y avait le maintien en fin de saison, et pourquoi pas, bon, la Coupe de France, même si je disais tout à l'heure, je pense pas. Je pense que la route, ça s'arrêtera là. Je ne vois, franchement, je pense qu'en ce moment, on n'a pas les armes pour battre le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on n'a pas les armes. Et puis, il y a aussi ce fameux projet sur 5 ans par le directeur général Gravelaine, qui a fait un projet sur 5 ans. Sauf que Gravelaine, il a plus de 4 ans. Est-ce qu'il y a moyen de basculer sur autre chose? Que le projet, c'était nouveau centre d'entraînement, refaire un peu plus de formation, pérenniser le club. Les étapes sont là. Est-ce qu'il y a moyen de rebasculer sur autre chose dès la saison prochaine? Voilà. C'est l'explication
que
je
peux vous donner.
Je pense que... Il y a des questions qui se posent et ça va être là il manque franchement. Bon, tu disais Nicolas 6 points sur le barragiste, c'est on aura des confrontations directes à l'extérieur, faudra aller à Troyes, faudra aller à Metz, on aura Toulouse à la maison. Bon, il manque un dernier coup de collier, mais faut le mettre parce que sur ces 4 derniers matchs, il n'y a pas le coup de collier. Donc moi ce qui m'embête le plus pour terminer, parce qu'après je sais qu'il y a d'autres actualités, donc je vais laisser tranquille. Moi, ce qui m'inquiète sur ces derniers matchs, c'est que ça manque un peu de dalle, pour être un peu vulgaire. Il y a des mecs qui ont plus trop la dalle, et ça me gêne. Ça me
t'aurais été obligé de te couper, soit... Corentin, parce que dalle, ça ne passe pas, là. Je suis désolé, Corentin. Inacceptable.
Non mais voilà, ce soir Amiens ils nous ont donné une leçon dans l'état d'esprit et même dans le jeu. Le seul bémol que je pourrais vous mettre à votre analyse, c'est surtout à toi François qui a dit Kakuta était évidemment un très bon joueur. Kakuta aussi début janvier il y a eu un trou d'air. À Amiens aussi il y a eu un trou d'air. Quand tu joues le maintien, t'as toujours une période de 4-5 matchs. Bon, quand t'as Aïd Benacer à Caen, même si c'est pas le même profil que Kakuta, Aïd Benacer peut faire autant de bien à Caen que Kakuta en fait à Amiens. C'est le seul bémol que j'ai, mais j'ai pas de soucis ce soir Kakuta.
C'est un bémol, ma foi, que j'accepte sans scier.
Oui, voilà, attention. Merci Corentin.
Pour terminer, ce soir, j'accepte la défaite.
Ça fait 3 fois que tu as gagné,
faut terminer, Corentin, parce que vous terminez, là, monsieur, hein. Désolé, sinon, on va vous donner les clés, vous éteindrez la lumière.
Vas-y, Corentin.
Non, c'est bon, j'avais fini, c'était pour vous remercier. Merci.
Merci nous aussi.
Bravo, merci Corentin, à bientôt.
Merci Corentin.
Heureusement qu'on l'a pour le Stade Malherbe.
Non, mais ici, cherchez des dirigeants.
Pas que pour le Stade Malherbe, d'ailleurs. Comment?
S'il cherche des dirigeants, quand je crois que Corentin.
Non, mais tu sais, j'étais en train d'y penser pendant qu'il parlait, j'ai dit, mais envoie un CV, mon gars. Envoie un CV.
Exactement.
Tiens, un petit mot avec Thomas également, supporter du TFC, qui s'est incliné ce soir face à Dijon 1-0. 8e match sans victoire pour les Toulousains. Thomas.
Oui, bonsoir. Bonsoir, l'afterfoot.
T'as la pêche quand même ou pas, Thomas?
Tu vas pas te suicider?
Non, mais.
T'as été joyeux ce soir, toi, sans déconner, là.
Bah, Toulouse, ils vont, dis-lui à Thomas, ils vont bien.
Ouais, il y a autre chose dans la vie.
C'est une catastrophe.
Bien, oui. Toulouse, il y a d'autres choses.
Ça va bien, oui. Oui, c'est sûr que par rapport à Lille, ça peut aller bien, ouais. Mais encore.
Faut aller encore.
Lille est 3, quoi.
Ouais. Et encore, ouais.
Ouais. Heureusement qu'il y a Lille est 3 qui se plantait derrière. Parce que bon, on n'est pas capable de gagner un match à la maison, là. Contre Dijon. On a quoi? On a 2-3 occasions, mais voilà, c'est tout. Allez, merci, bonsoir.
Le problème, je vais te dire, c'est que quand tu joues le maintien, je le répète, il faut pas non plus essayer que de gagner. Faut prendre des points. C'est-à-dire
que tu ne cherches pas.
Les nuls, ça paye pas des masses.
Les nuls, c'est pas ce qui te permet de me regarde pas comme si je veux dire une énormité.
C'est pas les nuls qui te permettent de gagner. Ce soir.
Tu veux leur reprocher d'avoir cherché à gagner?
Non, Dijon, ils se retrouveraient qu'avec un point de gagné. Et toi, t'en as un. Là, Dijon, ils en ont 3. Et toi, t'en as 0. Ça fait une trop grosse différence. Donc, à vouloir essayer de gagner, à vouloir absolument prendre les 3 points, souvent quand tu joues le maintien, déjà de sortir avec un point et plusieurs matchs d'affilée avec des points, c'est
bien. Thomas, tu peux jouer à la calculatrice. On le partage assez souvent. Il faut essayer de faire un peu de jeu.
On s'est tapé Toulouse là. C'était dimanche dernier là contre. C'était dimanche ou pas? Ou il y a 15 jours?
Oui. C'était dimanche contre Lyon. Quelle purge.
Oh mais attends, sans déconner. Oh. Non mais dans le jeu c'est compliqué quand même à Toulouse.
45 minutes. La première mi-temps c'est cadeau. Ils ont tout offert à Lyon. Ils ont pu marquer, ils ont mis leur premier but, leur second but, et voilà, le match était plié. Et on s'est réveillé un petit peu. Mais un petit peu, mais 10 minutes, comme aujourd'hui, comme ce soir. Ce soir, pendant un quart d'heure, on a joué. On a un peu joué, on a inquiété Dijon. C'est la plus mauvaise défense de Ligue 1, on n'est pas capable de mettre un but. C'est catastrophique.
Ouais, et on rappelle, c'était la pire équipe à l'extérieur aussi. Ils avaient une victoire à l'extérieur, c'était un mess en octobre. On était avec Olivier Delgueillot tout à l'heure. Bon, un petit message d'espoir, Thomas, quand même.
Merci Thomas. Espérer que Lille et Troyes
complètement. Bon, non, c'est pas un message d'espoir, souhaiter le malheur des autres.
Ouais. Ouais. Là, football, ouais. Là, il y a que ça qui va nous sauver, quoi.
Il y a vraiment que ça qui va nous sauver cette année.
Non, mais là, il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils prennent conscience de là où ils sont, quoi. Les joueurs. J'ai pas l'impression qu'ils réfléchissent, qu'ils jouent le maintien, mais qu'on n'est pas au mieux, quoi. Niveau football, que c'est vraiment triste, quoi. J'espère qu'ils vont prendre conscience de ça.
Merci Thomas, en tout cas, de nous avoir appelé.
Et j'espère que si l'an prochain, on doit avoir un nouvel entraîneur, ce sera Christophe Pélissier.
Ah, notre, ouais, en plus, il est de Revel, il est pas très loin. Donc,
Oui, mais en plus, il habite pas loin de chez moi, il est juste à côté de chez moi, à 10 kilomètres.
Quel super mec, en plus. Moi, franchement, ce serait une bonne pioche, humainement, bah, techniquement, tout ce que tu veux, tactiquement.
Bien, mais il faut lui donner un autre effectif aussi.
Ouais, bah après,
on refait la même histoire, hein.
Si tu mets, de Toulouse, il est
si tu mets, il est un peu à sa place, je trouve, quand même.
Ah, il est pas mauvais, comparé à l'effectif d'Amiens, comparé à les effectifs. C'est pas le même,
attention. Ouais, ça veut rien dire.
Ils n'ont pas remplacé Trérot.
Il faut la faire, l'équipe. Ouais, mais il faut la faire, l'équipe. Ça, c'est
il faut pas oublier qu'il a fait avec
Lesnar. Tu mets le meilleur
pour ouais, exactement. Il fait monter deux. Non, mais c'est pour ça. Lui, enfin, il s'en fout des individualités. Lui, il crée des équipes.
Ah oui, mais demande à Pélissier s'il a des bonnes individualités, tu vas voir.
Ben, moi, ce qui compte, c'est l'équipe. C'est ce qu'il te dira.
Oui, ce qui compte, c'est l'équipe avec des bons joueurs.
Avec des bons joueurs.
Je suis sûr, tu sais quoi? Qui préfère
tes joueurs moyens?
Voilà. Tu n'y arrives pas. Merci Thomas. Bonne soirée à toi.
Merci Thomas. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt.
Salut Thomas. On va accueillir Charles, messieurs, qui est supporter de l'AS Monaco. Monaco qui s'est imposé 2-1 face à Nantes cet après-midi. Mené après le but de Thomasson à la 32e. Falcao a égalisé à la 42e. Et dans le temps additionnel de la première période, Rony Lopez is on fire. Il va peut-être pas aller à la Coupe du Monde, Rony.
Il a un beau but.
8 buts sur les 7 derniers matchs de Ligue 1.
Il n'a pas
été convoqué ces derniers temps. C'est incroyable. Il fait une année 2018 de
du parce tonnerre. Parce qu'en ce moment, le Portugal, tu me l'as dit, c'est magouille.
Ah, mais moi, je le prends.
Avec la sélection.
Je me dis que c'était Magui.
Rapport avec la sélection.
Les clubs,
non, mais il a parlé des clubs.
Ah non, mais dirigeant des clubs.
Les clubs et la sélection.
Ça va avec.
Non, 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 les gars. Ali, non, pas toi.
Vous avez vu ce qui s'est passé au Sporting ou pas?
Ça fait un buzz.
Oui, il a viré 16.
Non, non, non. Bah attends, faut, ce qu'il faut raconter, hier, donc le Sporting perd le match de Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid. 2-0, ok. Le président balance sur Twitter.
À Madrid.
Il dit, il y a certains joueurs qui n'ont pas été au niveau, il balance des noms. Il dit Coates, il s'est troué sur le premier but. Il s'est troué. Il y a des joueurs internationaux comme lui, comme Coentrin qui n'ont pas été au niveau. Il les balance, il les fracasse. Il dit, on a joué à 9 contre 11 et tout ça, machin. Le soir, débat à la télé après son, parce qu'il communique beaucoup sur Facebook. Il y a une chaîne portugaise qui fait un débat là-dessus. Il appelle en direct, il dit, je vois pas pourquoi vous plaignez, pourquoi vous faites des débats là-dessus. L'entraîneur à la fin du match, il a dit qu'on n'a pas été au niveau. Moi, j'ai dit pareil. Il dit, ouais, mais quand même, vous avez balancé sur des joueurs, vous les avez nommés. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre, machin. Le lendemain,
c'est moi qui paye.
Rui Patricio, capitaine du Sporting, formé au club, hein, l'étendard, champion d'Europe, tout ce que tu veux, il balance un pavé sur Insta en disant voilà, nous, au nom de l'équipe, je m'exprime, on dénonce les mots du président, on n'est pas content sur ce qu'il a dit, on a toujours été professionnel, machin et tout. Le président sur Facebook dit, copier-coller de l'Insta de son capitaine, il dit bah écoutez, ici c'est pas la République bananière, tous les mecs qui partagent ça sont suspendus. 19 joueurs de l'effectif partagent le truc.
Mais c'est
donc tout le monde se dit, bah les 19 sont suspendus. Donc là, il y avait conf de presse de Jorge Jesus, l'entraîneur, cet après-midi. Donc là, bah réunion de crise. Et finalement, bah Jorge Jesus est apparu en conf de presse tout à l'heure en disant bon bah finalement, j'ai eu la garantie de mon président que je pouvais convoquer tous les joueurs que je voulais pour le match parce qu'ils jouent demain face à Passos. Et alors ils avaient menacé d'aligner l'équipe B qui joue en D2. Enfin,
ça n'a rien à voir avec la situation de la sélection. Voilà.
C'est énorme.
Et les cette histoire,
c'est du jamais vu. Même au Portugal, il y avait des trucs de dingue.
Heureusement, hein, ah non, jamais vu.
Mais
ça.
Je sais que
ça n'a rien à voir avec Magui et compagnie.
Non,
c'est juste un président qui a pété les plombs.
Oui, c'est énervé.
À la Trump un peu.
Tu sais qu'il y a des journaux qui le comparent à lui et ce qu'il énerve profondément.
Non, mais il se passe beaucoup de choses au Portugal.
Italien.
Il se passe beaucoup de choses.
Un trompignon.
Qu'est-ce que tu dis, toi? Il se passe beaucoup de choses au Portugal.
On a que Charles, comme promis.
Charles,
tu sais que mon prénom devait être Charles à la naissance. Mon père voulait m'appeler Charles. Non, Charles.
Charles Velache.
Il voulait m'appeler Charles. Voilà.
Charles Velache.
C'est un joli prénom, Charles. C'est un joli prénom.
Je sais pas si je l'aurais bien vécu. J'aurais peut-être pas fait carrière.
Il a dit Nicolas.
Bon, donc, quand Charles, c'est difficile, mais après, ça va.
Ouais, salut, ouais, Prince Charles.
C'est un peu relou, ouais.
Salut, After. Ouais, bah, écoutez, victoire, hein. Donc, quand il y a une victoire, c'est cool. De toute façon, il n'y a pas à dire. Deuxième place pour moi. Enfin, je pense, sans trop m'avancer, que c'est acquis.
Oui.
Par contre, au niveau du jeu, ouais, franchement, ils jouent avec nos nerfs. Hein. Cette équipe, elle joue avec mes nerfs. Mais
ça
vraiment...
fait un moment que c'est moins bien là, quand même, hein, Charles. Au niveau du
mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a un retour de trêve, de toute façon, c'est simple. Avec Monaco, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a une trêve, bah alors là, tu peux être sûr que les deux, trois prochains matchs, c'est n'importe quoi. Mmh. Donc, victoire, sauf que, on a quand même réussi à se faire peur face à une équipe qui jouait avec quasiment presque 6 défenseurs, on va dire. On a quand même réussi à se faire peur, donc voilà quoi, c'est pas terrible. Moi, je suis mi-figue mi-raisin. Je suis content, mais j'ai un peu peur. Après, voilà.
T'as peur peut-être du PSG qui arrive là, non ?
C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai peur de me reprendre 4-0 contre le PSG ou 3-0. J'ai peur qu'après ça les foute dans un état pas possible, les loulous, et j'ai peur qu'après on se fasse rattraper par Lyon. Après, j'y crois pas
non,
trop.
Par Marseille.
Lyon,
un peu plus loin. Non, c'est-à-dire ce qu'il aurait pu te faire peur, Charles, c'est surtout que si tu te faisais accrocher par Nantes, t'allais jouer au PSG, tu perdais, et que Marseille prenait les 6 points.
C'était
le problème. Mais là, en battant Nantes,
je sais pas, Marseille, je les sens pas trop là pour la fin de saison. Je sais pas pourquoi.
Championnat, ils sont toujours, que tu veuilles ou pas, en championnat, ils sont là. Alors que Lyon, ils sont plus loin pour Monaco quand même. Faut pas oublier que Monaco a le goal average en plus.
Mais de toute façon, moi je pense que la deuxième place,
je suis le pessimiste,
mais elle est.
T'as 8 points d'avance là pour l'instant.
Elle est acquise, mais je suis juste déçu dans le jeu, quoi. Je suis déçu.
Qu'est-ce que tu penses de Tielemans? Je l'ai regardé encore aujourd'hui. Je le sens complètement perdu, le petit Tielemans.
Non, mais Tielemans, c'est une. Bah, de toute façon, autant Monaco peut faire des très bons coups, autant ils peuvent aussi faire des mauvais coups, ça arrive. Pour l'instant, Tielemans, c'est la grosse arnaque de l'année, clairement. Après voilà, faudra voir si je pense qu'il va arrêter de toute façon l'année prochaine.
Oui, peut-être l'année prochaine il sera beaucoup mieux.
Il lui fallait peut-être Fabinho va partir, donc je pense que Tielemans ça va être son remplaçant naturel. Mm-hmm. Après on verra.
Si Fabinho s'en va et Moutinho ça Tielemans ça va
faire Moutinho il a signé de toute façon. Moutinho il a signé donc ça il y a pas de souci.
Oui oui, il a prolongé.
Ouais, Moutinho il a signé pour jusqu'en 2020 ou 2021, donc ça il y a pas de souci. Mais par contre Fabinho ça va être la galère pour le remplacer, ça va être la galère. Oh là là. Mmh. En tout cas par contre,
dépité
par contre,
Charles.
Ah oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'ils ont
T'as mec t'es deuxième du championnat gros, direct
j'ai peur parce qu'à chaque
tu supportes pas Toulouse ou Lille mon gars là, tu serais où?
Non,
par contre, tout ce que je veux, c'est qu'on garde Ronny Lopez. Pitié, qu'on garde Ronny Lopez.
Et pas longtemps, il y a personne qui l'a voulu de Ronny Lopez.
Ouais, mais lui, il veut
la politique de ton club, n'est-ce pas?
Si une grosse offre arrive, ça va être
bien. Il veut retourner
à City. Non, mais... Il a dit qu'il voulait retourner à Manchester City. Alors, si Pep, il attend ça, on est mort.
Il jouera pas à City.
Je pense qu'il sera content.
Il a pas dit qu'il voulait retourner à Manchester City. Non. On lui a demandé si ça lui ferait plaisir de retrouver son pote Bernardo Silva, voilà, parce qu'il y avait le lien entre les deux. Uh-huh. Et il a dit, bien sûr que ça me ferait plaisir d'y retourner.
Au fond, par rapport à.
Quand tu connais la politique du club, la deuxième place de Monaco, qui est quasiment scellée.
Finalement, la partie la plus intéressante de l'ASM maintenant, ça va être l'intersaison, parce que dans leur programme, dans leur politique, qui est de valoriser des joueurs.
Attends.
Donc, ils ont valorisé l'été dernier. On a tous bien vu les chiffres.
Ils vont pas le faire cette année.
Donc, il faut voir cette année comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura des tentations auxquelles ils céderont de nouveau, parce que les caisses sont pleines.
Justement, ils ont récupéré même au-delà de ça tout l'oseille. Mais c'est surtout est-ce que le club va pas être vendu.
C'est des rumeurs.
Ah ouais, écoute, il n'y a pas de rumeurs, mon gars.
Charles, c'est pas des rumeurs, je peux te le dire.
Il y a des déménagements qui s'opèrent en ce moment du côté de Monaco, je te le dis. Hein, et ils concernent certains dirigeants du club.
Franchement, j'y crois pas. J'ai entendu ça aussi, mais franchement, j'y crois pas. Le Ribolovlev, là, j'ai confiance.
Monsieur Ribolovlev, attention, Charles.
Monsieur Ribolovlev. Quand on s'appelle Charles, on assume.
Le Ribolovlev. Non mais toi tu vas avoir des problèmes.
Non, de toute façon le vrai patron c'est Vadim hein, c'est Vassiliev hein. Alors lui si tant qu'il reste, moi je suis serein, il y a pas de souci.
Je pense que
tu vois c'est pour
bon ça Ribolovlev dont j'ai eu vent de la façon dont il a géré l'actuel président de la fédération, je pense pas que ce soit Vadim le patron. Non, je pense que c'est monsieur Ribolovlev qui a peur de perdre.
Vas-y lève-toi.
Non, franchement, c'est un bon Vadim, mais bon, après, moi, de toute façon, tout ce que je veux, c'est que sur cette fin de saison,
ça mange vraiment la pelouse.
Après, c'est ce qu'ils vont le faire. Moi, j'ai juste peur qu'on se prenne une raclée contre Paris et c'est ça, franchement.
Ça, de toute façon, tu pourras prendre une raclée, ça va pas t'empêcher d'être deuxième du championnat.
Non, mais bon, la fin de saison, faut qu'elle soit belle, quoi. Mais bon, là, c'est.
Charles, je vais te remonter le moral. Carlos, je vais te remonter le moral. On va écouter Leonardo Jardim en conf de presse après la victoire 2-1 face au FC Nantes de cet après-midi.
Allez.
Leonardo Jardim.
Mon aller, c'est primé mi-temps. Je pense nous fait un gros match, nous maîtriser les matchs. Après 12e mi-temps, je pense que le jeu plus équilibré. Bien sûr que nous sommes plus confortables, nous sommes à gagner 2-1. Mais même comme ça, la meilleure occasion 12e mi-temps, c'est de Falk, qui peut faire le troisième but et tuer les matchs. Mais je crois que le match est la victoire méritée des meilleures équipes, des équipes qui essayaient de gagner les matchs dès le début du match.
Voilà, il dit hein, en gros hein, que le...
Traduit.
Voilà, la meilleure équipe,
pas facile à comprendre, là, hein.
L'équipe qui a voulu gagner le match a été finalement récompensée. Et l'important, c'était les trois points. Non, mais il a raison dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle un peu de Nantes. Parce que là, on parlait de Monaco, effectivement. Nantes, c'est une victoire sur les 9 derniers matchs.
Ah, mais c'était pas bien encore ce
soir. Non, ils peuvent jouer l'Europe encore.
Mais il me faut de la peine. Même Nantes, hein, c'est plus le...
Mais non, mais Ranieri, il est déjà parti, hein. Il est déjà parti. Il est déjà à Lyon, Ranieri, hein.
Alors, il a déclaré, il a répondu, d'ailleurs, au micro de Canal cet après-midi en disant, je serai là la saison prochaine.
Ah bon?
Ouais, mais peut-être à Monaco. Le dernier entraîneur de Nantes qui a dit, je serai là la saison prochaine.
Il les a carottés.
Non mais attends, parce que je suis en train de faire le truc, il a dit ça, il était à Monaco au moment où il a dit ça.
Ah, ah.
Non, je déconne, j'en sais rien. Mais Jardim va peut-être partir, par contre.
Mais c'est... Oh non, arrêtez les gars, dites pas ça.
Écoute, dans les informations que je l'ai lues...
Non,
tu sais qu'il est courtisé de dingue, le Leonardo Jardim. Son rêve, c'est l'Angleterre, n'oublie pas ça, Charles.
Il a dit, qu'il était l'entraîneur du présent et du futur. Arrêtez, me faites pas peur, les gars.
Oui, mais du futur,
de quel club? On ne sait pas. Charles, entre l'actionnaire qui va récupérer le club, t'es pas au courant. Jardim qui s'en va.
Vous voulez pas que je dorme, en fait, là?
Mais t'es pas au courant.
Mais sois content,
t'es deuxième du championnat, sois content.
Mais oui, je suis content, mais.
Avec c'est quoi, c'est ce qu'on va faire pour la première fois, on va transférer un supporter, on va te transférer à Lille ou à Toulouse. Voilà, c'est fait.
Ah non, aucun des deux s'il vous plaît, merci.
Bon Charles, merci en tout cas mon gars.
Ciao Charles.
Merci à vous, salut.
Bonne soirée salut. Charles, à très bientôt. Et nous dans quelques instants on sera avec Philippe Leclerc. On ira en Angleterre où il y a eu un match mais de taré. Le derby de Manchester entre City et United. City qui avait besoin d'une victoire pour être sacré champion dès ce soir. Ça aurait été le record de précocité d'ailleurs dans l'histoire du foot anglais. Ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Pogba bien doublé, Philippe Leclerc va nous raconter ça.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Belarbia. Et François Manardo, bien entendu, et vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio. Pourquoi tu souris, François Manardo?
Non, parce que je suis avec délectation ton style d'animateur.
Je ne savais pas quoi dire là.
Mais un peu.
Ça vaut pas en delà.
Bah mais je me défends. Il y avait un côté un peu
dans la façon de parler. Mais c'est vrai que j'ai la voix hyper cassée. Bah, pour te dire la vérité, j'ai plus de voix. Voilà, c'est le truc.
Bah, en fait, on s'en fout.
Allez, merci beaucoup. Ali, tu es très agréable ce soir.
Il a raison, Ali.
Messieurs, on part en Angleterre. Retrouvez Philippe Auclair, 33e journée de première ligue. Manchester City devait s'imposer dans le derby face à Manchester United pour être sacré champion. À la mi-temps, il menait 2-0, compagnie Gundogan. 2-0 pour City qui était champion d'Angleterre à la pause. Oui mais voilà, seconde période, doublé de Pogba, un but de Smalling, un but d'attaquant d'ailleurs. Et du coup, eh bien City n'est pas champion ce soir. Philippe Auclair, bonsoir. Quel match de fou furieux.
Oui, écoute, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire tant au niveau de la qualité du jeu offert par les deux équipes hein, mais surtout par l'histoire, je dirais, par la façon dont on a vu un match se retourner. Je cherche, et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis depuis, on en parlait avec Damien Comoni quand on était ensemble sur SFR, on se disait, mais est-ce qu'on a en tête un retournement de situation de ce type-là dans un match de ce type? Nous avons donc le champion, enfin qui sera le futur champion, recevant son ennemi héréditaire, en quelque sorte, dans son stade, l'écrasant, pouvant mener 4 ou 5-0 à la pause. Je pense qu'il y aurait absolument
un
scandale. Sterling a un peu bouffé la feuille, Gundogan également a une très grosse occasion. Tu peux également mettre en question, même si après un match comme celui-là, ça paraît un peu mesquin, certaines décisions arbitrales, notamment la main de Young dans la surface, je maintiens que c'était un pénalty, mais bon, peu importe.
Et la faute aussi derrière.
La faute, n'en parlons même pas, c'est complètement hallucinant, c'est aberrant, c'est incompréhensible. Mais de voir un tel retournement de situation entre les deux périodes et à un tel niveau et avec une telle intensité, c'est quelque chose franchement que moi je n'avais jamais vécu en championnat d'Angleterre. J'ai peut-être vécu des matchs plus intenses à certains points de vue, mais dans ce contexte-là, j'en ai jamais vu qui soit aussi surprenant et aussi difficile à expliquer. Si ce n'est, et alors là, je pense que c'est peut-être Ali qui peut nous en dire plus. Moi, je parlais avec Ander Herrera après la rencontre, qui nous expliquait que c'était pas des changements tactiques qui avaient fait que Manchester United tout d'un coup était sorti en deuxième période et avait complètement bouleversé le cours du jeu, uniquement du mental, du psychologique.
Ouais, exactement. Je pense qu'en revenant à la mi-temps, déjà, United, ils avaient plus rien à perdre et il suffisait juste d'un but de United et ça a été par Pogba. Et par contre, City, il s'est dit 2-0, ça y est, la tête, elle a pivoté au match de Coupe d'Europe et ils en ont oublié qu'il restait une deuxième mi-temps.
Il y a quand même une fragilité qui se fait jour dans cette équipe de Manchester City, ça ne retire rien. Je crois que c'est là où il faut faire attention, c'est que c'est pas parce qu'on a vu cette équipe de Manchester City s'incliner face à Liverpool, puis s'incliner dans un contexte très particulier face à Manchester United, il faut minimiser ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils vont accomplir. Mmh. Ils seront champions d'Angleterre, oui, personne n'en doute.
Mourinho leur a rendu hommage hein, à la fin du match en disant ce sera ils mériteront d'être champions et ce sera un beau champion voilà.
Oui, aussi, ce sera un magnifique champion. Mmh. Mais cela dit, moi c'est pour ça qu'on regarde le football, mais quand je vois par exemple la différence entre le niveau de jeu de Manchester United et en particulier de certains de ses joueurs, parce que Ali, tu mentionnais Paul Pogba qui en deuxième période est décisif, qui est vraiment l'un des hommes qui fait basculer le match. Sa première mi-temps est catastrophique.
Ah oui, il a fait
mais
que glisser et
tomber. Catastrophique.
Ah oui.
Alexis, c'est pareil, qui termine avec deux passes décisives.
Mais alors il a pas joué.
Mais visiblement Mourinho a su trouver les mots. Ça veut dire aussi que ses joueurs jouent toujours pour lui, ce dont on a parfois douté pendant la saison, avec certains problèmes. Ça signifie également que, après ce qu'on a vu dans la presse anglaise ce matin, après la déclaration de Pep Guardiola au sujet de ses conversations avec Mino Raiola, ou plutôt de ce qu'il a dit sur Mino Raiola et Pogba et Mkhitaryan voulant quitter Manchester City au mois de janvier, etc. Donc, la pression, la façon dont Manchester United a répondu à cette pression était extraordinaire. Mais ça nous montre aussi, Nicolas, ce qui manque encore à cette équipe de Manchester City qui est en formation.
Ouais, moi, je pense, Philippe, c'est qu'elle manque du cœur à l'ouvrage par certains moments. Elle est très forte techniquement, tactiquement, collectivement. Mais après, au niveau agressivité du cœur, c'est ce qui lui manque.
Alors Philippe, je te propose d'écouter justement puisque tu parles du cœur, Eric Bailly. Voilà, Jérôme Sillon était avec lui à la fin du match. On va écouter la réaction d'Eric Bailly, le défenseur de Manchester United, qui expliquait que c'était José Mourinho, le coach, qui avait reboosté son équipe. Eric Bailly.
La mentalité de toute l'équipe, voilà, et le coach aussi a motivé tous les joueurs parce qu'en première mi-temps c'était vraiment difficile. Paul c'est un joueur important pour nous. Voilà, quand il est dans un bon moment, voilà ce que ça donne. Voilà, comme je l'ai dit, c'était difficile en première mi-temps. Et voilà, les joueurs importants comme Paul et Alexis et plein d'autres, et en deuxième mi-temps ils ont été dans leur match et voilà, ça nous a apporté un plus.
Alors Eric Bailly parle de Paul Pogba. Faut en parler aussi à Philippe parce qu'il plante un doublé. Alors moi j'ai regardé, c'est son troisième doublé en carrière hein, seulement à Paul Pogba. Il avait mis un en Coupe d'Europe face au Fenerbahçe avec United. Un avec la Juve et c'était face à la Lazio aussi. Alors ça a été un peu à l'image finalement de ce qu'on lui reproche et de ce qu'on aime chez lui. Je sais pas ce que t'en penses Philippe. Il a été transparent à l'image de l'équipe en première période. Et alors en seconde période, c'était un autre match, c'était un autre Paul Pogba.
Oui, positionné un petit peu différemment d'ailleurs. Hein. Il était un peu plus haut dans le positionnement, dans le schéma mis en place par José Mourinho. Tout d'un coup, tu le vois changer d'une position où il était dans un 4-3-3 sur le côté gauche avec quelques responsabilités défensives. En deuxième période, il se projette beaucoup plus vers l'avant. D'ailleurs, tu vois les positions d'où il part pour ses deux buts. Hein. C'est très significatif. Donc plus de liberté, plus d'allant, et également on retrouve de l'envie tout d'un coup dans son jeu qu'on n'avait pas nécessairement vu lors de la première période où franchement il avait été inexistant, tu dis inexistant, mais il avait même été catastrophique. Et je me suis bien fait remonter, je peux te garantir, sur Twitter lorsque j'ai osé parler de ça. Mais en fait, c'est justement tout Paul Pogba qu'on a vu aujourd'hui. Tu as vu le mauvais Pogba en première période.
Ouais.
Mais t'as aussi vu ce que Paul Pogba peut apporter lorsqu'il est bon.
Ouais, c'est le Dr. Jekyll et Mr. Hyde dont tu as parlé, ouais.
Ouais, oui, non, mais c'est un joueur aux deux visages et il est comme ça et il faut l'accepter et ça fait partie des, des choses qui sont un peu compliquées.
Alors, les deux visages, Philippe, les deux visages, d'accord, mais il y a quand même un visage qu'il a tendance à montrer un peu plus fréquemment que l'autre et qui est pas le meilleur, et c'est la raison pour laquelle il reçoit beaucoup de critiques, parce que on devine ou on connaît son potentiel et qu'il ne le démontre pas, ou alors qu'il le fait mal. En revanche, une chose que je retiens, c'est que a priori tu as vécu un des plus beaux matchs de Première Ligue, et Dieu sait si tu en suis depuis que voilà, que tu résides en Angleterre. Ça, c'est vraiment c'est même agréable de t'entendre et nous le raconter. Il y a une chose en revanche que tu ne pourras pas nous raconter parce que tu n'y étais pas et qui moi m'intrigue terriblement par rapport à la physionomie de cette rencontre, c'est qu'a bien pu dire José Mourinho à ses joueurs à la mi-temps.
Et
parce que pour moi, c'est le cœur, oui, mais il l'a résumé, mais moi c'est le cœur de ce qui fait le management dans le football, c'est comment tu arrives à un seul homme face à 11 mecs et un peu plus qui sont broyés pendant 45 minutes, et tu l'as dit, ça aurait pu être une corrida, ils auraient pu en prendre un peu plus que deux, et comment tu arrives à les retourner. Et c'est là que, pour moi, se résument toutes les grandes qualités, même si on peut critiquer Mourinho pour mille autres choses, mais les grandes qualités d'un manager. C'est pas un changement de tactique simplement.
J'allais dire un truc, on a retrouvé aujourd'hui, dans la gestion du match, le José Mourinho de l'Inter, c'est-à-dire le mec qui était capable d'appréhender le contexte d'un match, d'avoir cette capacité de faire se gonfler la poitrine de ses jambes. Mais j'étais pas présent dans le vestiaire, hélas. Mais quand on a parlé avec André Herrera, il nous a expliqué ce que Mourinho avait dit, et que Mourinho n'avait pas eu un discours tactique du tout.
Mais oui.
Il n'avait pas dit tu fais ci, tu fais ça, et parce qu'André Herrera, par exemple, est passé au marquage de David Silva en deuxième période. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé de choses très simples comme la fierté, comme la responsabilité de jeu pour Manchester United, comme justement rappeler 2-0, on marque le premier but en deuxième période, les gars, vous allez voir, ça peut être une histoire complètement différente. Il a eu cette capacité, visiblement, c'est vrai, il a encore le don de savoir parler aux joueurs. Il a également, sans les citer, il a dit, ceux qui n'ont pas été à leur niveau le savent, qu'ils le soient en deuxième mi-temps. Ouais. C'est-à-dire, il s'en est pas pris personnellement, mais je pense qu'on a tous compris de qui il parlait en particulier, hein. Ouais. Et le message a été reçu 5 sur 5, et le fait que le message a été reçu 5 sur 5, moi, ça me fait réfléchir, parce que j'ai dit des choses très dures sur Mourinho, et je pense qu'elles étaient justifiées cette saison après le match contre Séville, après le match aller, après le match contre Liverpool, le premier, hein, s'entend, après la défaite à Old Trafford contre Manchester City. Il a encore du fluide, et ou en tout cas, il l'a retrouvé aujourd'hui dans des circonstances contre son ennemi mais son ennemi juré, l'homme qu'il déteste le plus dans le football. Il les a retrouvés, et Manchester United ce soir, a gagné à Manchester.
D'ailleurs, quand tu vois la poignée de main à la fin de match, ils arrivent, Guardiola et Mourinho, l'un face à l'autre, sur un pas assez vif, tu te demandes lequel va essayer de mettre la main dans la gueule de l'autre. Tu sais qu'ils vont se serrer la poigne, et c'est ce qu'ils font. Mais t'as vraiment, de la part de Mourinho, mais ça transpire par tous les pores de sa peau, c'est « je t'ai bien carotté, mon gars, quand même. Je t'ai bien mis. » Et ça fait un peu la beauté du sport aussi, et ça fait l'histoire de ces grands duels, ça y participe.
Mais de l'autre côté, moi, Philippe, je sais pas que je suis content ou pas, est-ce que je me dis pas que...
T'es un peu triste.
Non, est-ce que je suis pas content, moi, plus pour ce match retour, où le fait de battre Manchester United, ben voilà, ça y est, t'es champion, fais la fête, alors que
ah, moi, c'est l'inverse, le fait de perdre, ça ne veut rien dire,
parce que c'est pas dans le jeu. Le problème, City, c'est pas dans le jeu.
Non, mais là, ça fait 6 buts encaissés en 2 matchs.
Je sais,
dynamique quand même.
C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Est-ce que cette équipe ne va pas faire plus attention dans l'agressivité dans les duels, parce qu'avec le ballon, elle est bonne.
Ah, tu veux dire que ça
c'est
peut leur servir de leçon?
Ça peut leur servir de leçon pour ce match retour. Pas avec ballon, Nico, mais sans ballon. C'est leur gros problème.
Philippe, t'en penses quoi? La leçon, il l'avait déjà prise, moi, je trouve, au match aller, hein, face à Liverpool. Hein. Là, c'est marrant parce qu'on en avait parlé en avant-match avec toi, Philippe, et avec Damien Comolli également. On se disait que finalement, perdre ce derby, ça pouvait être la pire des préparations pour City avant le quart de finale retour.
Absolument. D'un autre côté, je vais te dire que s'il y a bien une équipe que je peux imaginer gagner 4-0 ou 5-1 contre Liverpool mardi soir, c'est Manchester City.
Ou le Barça.
Oui, Philippe, mais il va falloir un ingrédient supplémentaire, c'est l'agressivité, c'est la dimension physique, pas mettre des tacles, hein, je parle pas de ça. Et Dieu sait si Liverpool
mercredi soir a été un niveau d'engagement et d'agressivité mais exceptionnel. Et j'avais pas trouvé Manchester City complètement spectateur de ça. Mais il va falloir 4-0, je suis d'accord. Mais pour que tu mettes ces 4-0, ces 4 buts à Liverpool...
4-0.
Parce que pour se qualifier, il faut qu'ils en plantent 4.
La qualification, il faut 3-0. Et après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Non,
c'est comme quand tu me parles des nuls et des victoires par rapport à Toulouse.
Non, parce que le maintien se fera à la fin.
D'accord.
Là,
D'accord. Non, non.
Je te lâche pas.
Mais tu tacles dans le vide. Il faut 4-0 pour se qualifier. Ou bien tu arrives au tir au but. Tu calcules pas. Mais tu calcules pas d'arriver au tir au but. Tu calcules pas d'arriver au tir au but.
Mais de revenir 3-0, François, tu sais ce que c'est? C'est un exploit.
Évidemment que c'est un exploit. Ils ont besoin de quoi d'autre que d'un exploit? Ils ont bien besoin d'un exploit.
C'est ce que je te dis.
Moi aussi, je te dis la même chose. Je le dis différemment.
Ne cherche
toi.
Pas le 4. Bon, c'est pas la même chose.
Merci Philippe, messieurs. Bonne soirée, Philippe. Merci.
Fais le bon rêve, surtout. Fais le bon rêve.
Je vais prendre un repos bien mérité, mais en tout cas, avec le sentiment d'avoir été un privilégié. Comme je l'avais été, tu sais, quand Liverpool avait battu Manchester City 4-3.
Ouais.
C'est des matchs qui te font, qui te rappellent pourquoi tu adores ce football et pourquoi le football, c'est le chaos aussi. C'est pas seulement. La tactique et tout ce que l'on voudra, mais c'est aussi cette espèce de magnifique folie. On a vécu ça, c'était inoubliable. Et merci à Mourinho, merci à Guardiola et merci à tous les gens qui vont faire ça.
Merci Philippe. Et un bisou à Zé.
Obrigado.
Ciao, dorme bien pas. Ciao Philippe. Merci.
C'est pour passer.
On va écouter quand même une petite réaction également, celle de Bernardo Silva en français, s'il vous plaît, au micro de Jérôme Sillon. Bah forcément, il est déçu, puis il se dit qu'il aurait pu plier le truc en première période, le portugais.
On a fait une première mi-temps, je pense, incroyable. On pouvait faire, je pense, 4-5 buts. Après, deuxième mi-temps, en 10 minutes, on a pris 2 buts et on a, je sais pas comment dire, on a lâché un peu la concentration. On n'a pas eu la chance pour faire plus de buts, mais félicitations à United.
Ce que dit Silva, c'est un peu le scénario de l'équipe de France contre la Colombie, hein. C'est on a enlevé la prise. Hein. Pas de courant.
Messieurs, dans quelques instants, on sera avec David Lortolari. Là, par contre, c'est fait. Ça y est, on connaît le champion.
Wir sind die Besten.
Oh, putain, tu parles toutes les langues, toi.
Ça veut dire c'est facile.
Nous sommes les meilleurs.
28e.
Ah, il est bon, Ali Benarfa. Ah,
je prêche à la Bessienne.
Moi, ça se fait que tu parles allemand, toi.
Parce que j'ai fait de la mort.
C'est vrai?
C'est vrai?
Je prêche à la Bessienne.
Un peu, ça veut dire qu'il parle un peu.
Bon allez, nous on retrouve David Ortolari juste après ça les gars.
Ouais, tu rates rien.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Ils sont dissipés, ils sont intenables.
On n'est pas dissipés, arrêtez
François
de dire.
François Monardo et Ali Benarbeu, alors pour te mettre dans le secret des dieux.
Mais en fait, secret des rien de tôt, voilà. Arrête un peu de ton cinéma.
En fait, on est en train de se demander d'où Ali Benarbeu savait parler allemand et d'où François Monardo. Tu parles combien de langues? Vraiment, sérieusement.
5.
Alors attends, ça, français, anglais, portugais, italien,
espagnol.
C'est bon.
Et allemand.
Mais ça, okay, t'as compté 5
mots. Tu parles arabe un peu, non?
Il avait rajouté.
Non,
il était
pour les insultes, c'est bon.
Non.
Donc tu parles.
Non, il se débrouille bien.
Oh, tacle.
Pourquoi?
Ça, les portugais, vous êtes.
C'est quoi le rapport? C'est n'importe quoi. Pour moi, l'essentiel dans une langue.
C'est les insultes.
Bah, c'est les insultes et les éloges.
Quand tu dis je t'aime.
Voilà, exact. Tu vois, t'as compris.
Alors, je vais faire le canard. Tu sais quoi, l'essentiel? Moi, j'ai eu la chance de bosser quelques temps avec Michel Platini. Il m'avait appris un truc. Quel que soit le pays dans lequel tu te rends, faut que tu connaisses deux mots. Bonjour et merci.
Ouais.
Non, pas.
Ouais,
pas. Sûr. Bonjour et merci. Et c'est vrai.
Et t'as appris à signer tes contrats ou pas? C'est dégueulasse.
Ça, il ne dira pas.
C'est dégueulasse.
Ça, il ne dira pas.
Ça va, on décolle. Qu'on l'embrasse, Michel, si tu nous regardes. Bien entendu. Messieurs, on file en Allemagne. David Lortolari. David Lortolari est avec nous.
Ça le fait marrer. S'il nous regarde, il doit rire. Je te le dis.
Bah oui, en plus, j'avais croisé il n'y a pas longtemps avec Raymond Domenech, figure-toi d'ailleurs.
Voilà, d'accord. Voilà. Ouais, lui, c'est autre chose. J'ai fait les deux, mais
on est à 5 journées de la fin. Le Bayern est d'ores et déjà sacré champion d'Allemagne. Je peux t'annoncer que c'est la fête chez Lorto. C'est là, mon Lorto?
Allô, Freunde, salut Charles.
Allô, c'est Oktoberfest, mais au mois d'avril.
Non,
salut François.
27e titre de Bully, c'est ça, pour le Bayern?
28 au total.
Ah, c'est 28 ou 27 alors?
28. Bah alors, suis tes fiches.
Voilà, 28.
Ah, bosse un peu.
Regarde, je change, 28.
C'est historique à plusieurs titres, hein, messieurs.
Alors, on laisse faire l'Orto?
Alors, vas-y, mon Orto. Victoire 4-1 face à Augsbourg, hein.
Non, mais laisse-le.
Ouais, victoire 4-1 face à Augsbourg. Avec Corentin Tolisso, avec Rames Rodriguez, avec Sandro Wagner et avec un Bayern qui a été bousculé d'abord, mené au score par Augsbourg, qui est à quelques dizaines de kilomètres hein, de Munich, comme nos auditeurs le savent, qui a réagi avec puissance, avec coffre, et qui a obtenu donc son 28e titre, avec un banc au début du match qui était un banc de stars, hein, comme c'était peut-être le cas.
Toujours pas de Neuer. C'est
Séville. Toujours pas de Neuer qui a repris l'entraînement, qui était dans le groupe mais qui n'était pas sur le banc. C'était Tom Starke qui était là comme remplaçant de Sven Ulreich, et il y avait du beau monde sur le banc en prévision évidemment du match de mercredi. Et c'est aussi en prévision de ce match retour de Ligue des Champions mercredi que Joep Heynckes, qui est le premier entraîneur de plus de 70 ans à être sacré.
72 très exactement.
Voilà, il n'y a aucun entraîneur septuagénaire qui n'avait été sacré encore. Et où Joep Heynckes a souhaité qu'on fasse une fête minimaliste. Donc il y a eu quelques bulles de champagne qui ont coulé dans le vestiaire, quelques bulles de bière aussi, mais rien de plus. Hein. Et on a été sobre parce que évidemment on attendra le.
Ça a fait un peu de buzz d'ailleurs cette histoire en Allemagne, parce qu'il y a des joueurs qui voulaient le fêter. Lui il a dit non, attendez les gars, on a un quart de finale à jouer.
Notamment Franck Ribéry, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui, qui s'est montré un peu légèrement frustré de pas pouvoir fêter ça en grande pompe. Mais évidemment, au Bayern, on a des objectifs forts que vous connaissez. Il y a d'abord la demi-finale de coupe d'Allemagne qui vient contre le Bayer Leverkusen, je crois que c'est le 17 avril, il me semble. Et puis évidemment, la Ligue des Champions pour laquelle on veut atteindre la finale.
Alors, t'allais dire
Non, parce que j'ai bossé 48 heures avec eux là cette semaine, et tu vois que c'est un très très grand club à tous les niveaux. Rien. Je parle pas que du jeu, mais dans les coulisses.
Rien n'est laissé au hasard.
Et puis quand tu reçois des courriers du Bayern, alors dans il y a l'entête évidemment avec le logo, mais surtout au cul du courrier, tu as tout le trophée, tous les trophées, tout le palmarès, pardon. Et là, je pense que t'as de la lecture.
Bah déjà,
t'as
ça fait la moitié de la page. Donc t'as plus
pas, loin, ouais. Pas loin,
t'as
pas loin.
T'as vraiment de place.
C'est
pour
très impressionnant. Écrire.
Juste, David, est-ce qu'on en sait un peu plus là sur le dossier de l'entraîneur? Alors, Heynckes va rester ou pas?
Après, il part, les amis. Pardon, David, mais j'ai un peu parlé avec eux et ça se termine à la fin de la saison. Plié, pas totalement, mais. Il cherche
d'ailleurs,
quelqu'un.
Il a, absolument. Il a souhaité s'en aller définitivement. Il avait été tiré de sa retraite qu'il avait pris en 2013 saison, ouais. Après le triplé. Il avait été tiré de sa retraite au mois d'octobre. Alors que d'ailleurs le Bayern avait 5 points de retard, était 3e et avait 5 points de retard sur Dortmund. Il en a une vingtaine aujourd'hui. Merci Joep Heynckes. Et la preuve que Joep Heynckes va tirer sa révérence, une des preuves, si vous voulez, visuelles qu'on a eues aujourd'hui à l'issue du match, c'est que l'entraîneur est venu seul face aux supporters du Bayern après le match, avec les yeux qui perlaient, un petit peu des larmes qui venaient, pour rendre hommage au public, pour aussi rendre un hommage appuyé. Il les a pris par la manche, l'un et l'autre, à Franck Ribéry et à Arjen Robben, avec un gros sous-entendu disant ce serait bien qu'on les prolonge au moins pour une saison supplémentaire. Et tout cela semblait vouloir dire bon, moi c'est fini pour moi, la fin de saison, je vais retourner dans ma ferme et arrêter avec le football. Il a gagné 4 titres avec le Bayern comme entraîneur, 8 au total. C'est un immense monsieur qui rendrait presque cette grosse machine humaine.
Et dis-moi, est-ce que ce trophée, alors je te posais la question sur Twitter cet après-midi, mais c'est pas un peu le trophée aussi de Carlo Ancelotti? C'est lui qui finalement débute la saison?
Ah ben, alors ça c'est très diplomatique. Joep Heynckes, c'est de ton avis, Charles Villas, parce que.
Ça m'étonne pas, on s'est appelé de toute façon.
Il a rendu hommage à Carlo Ancelotti dans son discours en conférence de presse après le match. Mais objectivement, ça va peut-être paraître un peu démago ce que je vais vous dire, mais quand Carlo Ancelotti est parti, la nuit qui a succédé au 3-0 perdu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il y avait 5 points de retard contre Dortmund, le Bayern était 3e, Robben et Ribéry partaient dans tous les sens, il n'y avait plus tellement d'unité dans le groupe, et on peut rendre quand même à Joep Heynckes toute cette qualité-là dans la suite de la saison, c'est-à-dire qu'il a réussi à réunifier ses stars, qu'il a réussi aussi à pacifier les relations, et c'est pas forcément évident, entre Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness, qu'il a mis un peu tout le monde d'accord et qu'il termine champion. Alors c'est pas un record en termes de calendrier, le titre qui a été acquis aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal à 5 journées de la fin, tu le disais. Je crois vraiment qu'objectivement Heynckes a une immense part du travail de ce titre cette saison. En revanche, il y a un dossier sur lequel on peut rendre hommage à Carlo Ancelotti, c'est d'avoir fait venir James Rodriguez. J'en ai fait un avis tranché déjà un lundi précédent. Je crois que cet homme-là, James Rodriguez, qui a eu la meilleure note chez nos confrères aujourd'hui sur le match, peut être vraiment
un futur star du Bayern
dans cette fin de saison. Et puis peut-être, oui, pour les saisons futures, effectivement, Ali.
Merci David.
Merci messieurs.
Bonne soirée à toi David. Voilà le Bayern sacré champion d'Allemagne. Merci David. Bisous, bonne soirée. Sixième titre de champion d'affilée pour le Bayern Munich et donc le 28e au total en Bundesliga. On file en Espagne, messieurs, retrouver Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo? Fred.
Oh bah ça va très bien. Je vais faire une petite raclette avec des amis là. Pleine forme.
Une raclette ou une raquette?
Une raclette.
Une raclette.
Ça se mange moins bien. Que... Je pensais qu'il y avait un jeu de raquette. Genre,
raclette en avril.
Ouais, ça, il fait pas
bon, il fait froid à Madrid cette semaine.
Ah, ouais,
ah oui, il fait très très
froid. Il pleut alors. Tout ça, donc voilà, c'est les derniers jours pour la raclette et le Bordeaux quoi.
Voilà, profite hein, mon gars. Le Barça a battu les Ganes là il y a quelques instants, triplé de Messi, victoire 3.
Messi et il a fallu un très bon Messi parce que jusqu'à la fin de match, ça faisait 2-1 en faveur du Barça et qu'il y a une équipe de Leganés qui est déjà assurée de rester en première division et qui a joué avec beaucoup de liberté. L'équipe de Leganés notamment avec un très bon Nordine Amrabat, le Marocain, qui ont fait leur match quoi, sans complexe.
J'adore ce joueur.
Ouais, j'adore moi aussi. J'adore.
Galatasaray, c'est ça. Hein
oui, il était en Turquie avant.
Ouais, exactement. Ouais. Mais là, il s'éclate dans la meilleure Liga du monde, la Liga espagnola. Et Messi là. Pour un mec qui était malade, enfin qui avait des problèmes musculaires, ça va beaucoup mieux. Hein. Il nous a mis un coup franc encore. Là, putain,
c'est encore comme ce qu'il fait à Séville il y a une semaine. Hein,
oh là là.
Il rentre en jeu à 5 minutes de la fin, ils sont 0-2 et ça termine
2-2. On a l'impression de se répéter, mais là les deux là, Ronaldo
ils sont dans une forme extraordinaire.
C'est n'importe quoi. Mais c'est toujours les grains.
On a une chance de vivre ça là. Les hommes
ça, les grains.
Je crois qu'on n'a pas conscience.
Ouais, je suis d'accord.
Non les grains.
On n'a pas conscience.
Ouais, tu as raison. Non mais les grains, c'est toujours compliqué.
Allez.
Oui.
Oh là là.
Les grands joueurs.
Vas-y, on t'écoute.
Vas-y, écoute.
Vas-y. Fred, c'est
parce qu'on est content pour un toujours bon au moment opportun.
Non mais attends, là ça fait 10 ans que ça dure Ali.
Mais ça fait 10 ans
ouais,
que c'est
non,
que j'ai jamais vu mon gars.
Ouais, mais ce que veut dire Ali, il a raison, c'est que par exemple Cristiano aujourd'hui c'est des demi-saisons. C'est maintenant que ça
du moment de la saison.
Et c'est là où il est très bon.
Bah oui, parce que mettre des triplés dans les premières journées, c'est une chose, mais les mettre au moment où c'est important, dans où ça fait la différence, là c'est pas la même chose.
Alors tiens,
non, puis après on dit oui, c'est facile de marquer des buts en Liga, sauf que les mecs ils les marquent en Ligue des Champions aussi.
Ouais.
Non, mais ça, on l'oublie. Voilà, aussi. C'est ça le truc, parce qu'après il y a toujours des gens qui sont là pour essayer
non,
de
mettre un peu de valeur. Laisse dire.
Fredo, on va pas rentrer dans le détail de cette victoire du Barça 3-1. En revanche, le Barça se rapproche du titre. J'aimerais que tu reviennes sur ce qui fait vraiment polémique en Espagne aujourd'hui. Alors c'est Zidane qui refuse le fameux Passio. Alors le Passio, c'est la haie d'honneur, une tradition en Espagne. En gros, le vainqueur de la Liga, celui qui vient d'être sacré, ou d'ailleurs pas forcément de la Liga, celui qui vient de remporter un trophée, il a le droit à une haie d'honneur de la part de ses adversaires. Et Zidane, il a expliqué en conf de presse que le 6 mai, parce qu'il y aura le Classico, eh bien si le Barça est champion à ce moment-là, il refusera de faire le Passio. Ouais. Alors il a expliqué, détaille-nous ça, en gros il explique que c'est parce que le Barça l'a pas fait.
Voilà, c'est-à-dire que la tradition, c'est que le premier match suivant un titre, l'équipe qui rencontre le vainqueur de ce titre fait une haie d'honneur. Rappelez-vous, en décembre, le Real Madrid a été champion du monde. Hein, il a gagné la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi. Mm-hmm. Et une semaine après, il y avait Real Madrid-Barça. Et la tradition qui existe depuis très très longtemps en Espagne, c'est qu'on doit faire une haie d'honneur. Le Barça l'avait déjà fait précédemment au Real, le Real l'a fait précédemment au Barça. Et là, à l'époque, le Barça avait refusé de le faire.
Ah, tu veux dire, attends, parce que distinguer le titre de champion d'Espagne et le titre.
Non, le titre.
C'est n'importe quel titre.
Titre.
C'est-à-dire que quand une équipe gagne un titre, quand une équipe vient de gagner, attends, je vous explique. Quand une équipe vient de gagner un titre, le match suivant, l'adversaire lui fait la haie d'honneur.
Voilà. Très bien.
C'est tout, ça c'est tout le temps. Passio, voilà. Et sauf que ça, le passio, la haie d'honneur, cette tradition a été rompue en décembre par le Barça, qui a refusé de faire la haie d'honneur à Bernabéu pour le Real, qui vient de gagner champion du monde. Mmh. Et donc, Zizou. Alors, moi, je me suis renseigné. Vous savez qu'il y a des conseillers en communication, c'est-à-dire c'est des gens de communication du club. Et moi, je me suis renseigné. La question, elle n'était pas attendue d'ailleurs, mais Zizou a répondu naturellement. Mais il le savait depuis le début. À partir du moment où on lui a posé la question, si le Barça gagne ses matchs, là, il n'y a plus que 4 matchs pour le Barça à gagner, 4 victoires, et le Barça sera champion au match avant le match contre le Real, qui sera un Barcelone-Real Madrid. Donc le Real Madrid devrait faire le passio, la haie d'honneur au Camp Nou. Ouais. Donc il y a une vraie possibilité que ça tombe à ce moment-là. C'est-à-dire que j'insiste que le Barça soit champion une semaine avant le match contre le Real. Et donc la question a été posée à Zidane qui a dit non, on le ferait pas. Et il a insisté, c'est ma décision. Il y avait une tradition, elle a été rompue par Barcelone en décembre. Donc là,
ça fait beaucoup de bruit en Espagne, cette histoire. Hein.
Mmh. Oui, ça fait beaucoup de bruit pour une raison très simple, c'est que les supporters du Real sont ravis. Parce que Zidane, qui est un peu le type, quand on parle un peu son image, voilà, politiquement correct, qui veut pas, voilà, qui se bat que sur le terrain, qui veut pas d'histoire, etc. Ouais. On lui pose la question. Lui, c'est un mec très clair. ils ont rompu la tradition, ben moi je vais plus leur respecter la tradition. Et je peux vous dire que là, même les gens qui considèrent que Zidane n'est pas assez batailleur dans la défense du Real, alors là ils sont tous okay. à genoux devant lui. C'est franchement, je vais être peut-être exagérer un peu, mais
pour finir,
pour certains supporters, comme s'il avait gagné un titre. Ce qu'il a dit aujourd'hui, okay, c'est aussi important qu'un titre pour beaucoup de supporters.
Comme s'il prolongeait.
Merci Fredo. Demain à 16h15, il y a Real Atlético également. Sachez
ben
le
oui.
derby. Merci mon Fredo, bonne soirée.
Un derby pour la deuxième place, mais un derby quand même. Oui, adios.
Bisous Fredo, merci. Merci Fredo, François Malardo. Merci.
Merci, on a terminé.
Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidé à préparer cette émission. Nous, on se retrouve demain à partir de 20h dans le Super Football Show. Bisous, bonne soirée.
On va faire un peu d'ondelat là, non?
Ciao, ciao. Bonsoir.
C'était l'After Foot sur RMC avec l'école Sikaflex. Sikaflex, 50 ans de réflexe.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.